Rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque. Chacun de ces traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature. Rhizome ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature.
J'ai 38 ans, ingénieur en automatisme d'origine béninoise. Je suis arrivé en France en 2003. J'ai fait la fin de mon lycée ici, ma fac ici, et je travaille maintenant en France, en CDI, et ça me plaît.
Moi, je suis d'origine, je suis béninois. J'ai vécu pendant 18 ans à Cotonou, au Bénin, en Afrique de l'Ouest, pour ceux qui ne voient pas où c'est. Et je suis venu en France pour mes études. J'ai commencé par des études plus orientées sur la littérature, avant de définitivement opter pour des études de cinéma. Puis maintenant, je travaille comme scénariste, comme réalisateur.
J'étais peut-être le seul noir, mais ça ne faisait pas une grande différence. On rigolait peut-être à cause de mon accent, mais je suis habitué à ça parce que je quittais le Canada, une ville où il y a beaucoup d'accent. Du coup, voilà, ça ne m'a pas plus choqué qu'autre chose, en fait. Suite à ça, j'ai eu quand même... Un camarade, on s'est fait des groupes d'études, ça arrive, et puis voilà, on était trois, un arabe, moi, et même si j'aime pas ce thème, un petit blanc, je trouve que même en le disant en tant que black, en disant ça, c'est déjà raciste, moi je le vois comme ça, et les trois, on dit quoi, melted pot, ou c'est le truc mélange de race ou de couleur, on se voyait, comme lui dit, c'est l'humain au fait qui était là, mais t'avais... le petit arabe qui disait mon premier prénom c'est Aïmoua, et il disait, ça m'énervait parce qu'il disait Aïe-vous, Aïe-tu, Aïe-nous. Je trouvais ça déplacé parce que c'est un prénom donné par mes grands-parents, même moi la signification je pense que je la connais pas très bien, mais ça a une valeur culturelle et je trouvais ça déplacé qu'il le déformait, mais pour lui c'était de la rigolade. Ça peut être ennuyant, ça peut être chiant, mais je pense que dans la vie, les personnes qu'on aime le plus, c'est les personnes qui nous font chier le plus, au fait. Et je pense que dans la vie, il faut savoir rigoler, il faut savoir vivre. Si on ne rigolait plus de tout ou de certaines choses, on ne vivra plus.
Voilà, moi, au départ, quand je suis arrivé en France, je voulais faire des films. Et dès le départ, je voulais faire des films, mais je ne voulais pas du tout faire des films spécifiquement sur des histoires africaines, sur des histoires avec des personnages africains, sur des noirs. Je voulais faire des films, même dans ma tête en fait, je disais que je voulais faire des films normaux. C'était des histoires avec des blancs ou des noirs, mais pour moi je ne voyais pas la question de la couleur, etc., etc., etc. Vraiment, j'étais en plus... J'étais le premier à dire. Moi, je suis arrivé dans une ville où il y avait une très très grande majorité de blancs, très peu de noirs, et j'étais le premier à vouloir m'intégrer, à vouloir ne pas faire de vagues et à vouloir genre juste montrer que tout était possible et qu'on pouvait tous se tenir main dans la main. Donc, je partais avec les meilleures des intentions, et je pense qu'à l'époque, si on m'avait parlé de racisme aussi, le moi de maintenant avait rencontré le moi de l'époque aurait trouvé ce moi vraiment trop radical et aurait trouvé que j'exagère et que c'est bon, faut pas déconner non plus, quoi.
On vit dans un monde avec toujours une part de défaut, et ce part de défaut, il faut y tenir compte, au fait. Je respecte cet engagement de Black Lives Matter, mais à la base, on est tous humains. Et le côté couleur, race, tout ça ne pourra disparaître. Pourquoi? Parce que dans les 90% de racistes, tu as les 10% d'êtres humains, qui ne se distinguent pas par la couleur, qui ne se distinguent pas par un statut, qui ne se distinguent pas en te disant tu es différent de moi. Et juste ces 10%-là font tout notre bonheur. Je reviens sur un exemple encore plus banal. Tu prends un enfant que tu mets au monde, elle va te faire galérer, tu n'auras pas dormi toute la nuit, tu vas dire c'est chiant d'avoir un enfant, tu vas galérer, tu vas pleurer des fois, par moment, tu vas chialer des fois, mais le fait qu'elle sourie, le fait qu'elle dise maman ou elle dise papa, au fait tout le sacrifice ou toute la souffrance est passée aux oubliettes. Donc moi je dis, ces 10%-là sont importants pour moi. Juste sa famille André qui m'a accueilli dans ce pays, je ne vois pas le racisme, moi je ne le vois pas, personnellement ça ne m'a pas touché.
Le fait est que, en fait, c'est au fur et à mesure du parcours qu'on commence à se rendre compte que, en suggérant parfois ou en disant juste des petites choses, la réaction vivace des autres te fait te dire « Attends, c'est pas moi qui ai un problème, c'est eux. » Je me souviens, l'un des premiers cours que j'ai fait sur la photographie, la direction de la photographie, la lumière, juste on devait se tenir avec mes camarades et se filmer, la prof avait la première chose qu'elle a dit, parce que je devais jouer dans un truc, elle avait dit « Oula, ça va être compliqué, toi, ta peau noire, vraiment, c'est un problème. » Et donc, je me disais, mais attends, déjà, je suis perçu comme un problème. Déjà, le fait que j'existe sur un écran est un problème pour les gens. Au départ, je m'étais en plus blâmé moi-même en mode, oh là là, enfin bref, passons. Et je pense que c'est, en fait, à force de vivre des expériences, à force d'expliquer que, même pas d'expliquer, de suggérer peut-être que, ok, pour la 10e fois, on pourrait ne pas prendre le même personnage de dealer noir, enfin black, comme disent les gens, et qu'un noir pourrait être avocat dans un film, et de voir la résistance intellectuelle à ça, par rapport à ce genre de choses. C'est la résistance intellectuelle à des choses qui, de mon existence, de mon parcours, me semblait évidente, qui m'a forcé à prendre parti, à prendre position, et même à me poser des questions sur ce que je voulais raconter ou ce que je voulais apporter à l'imaginaire collectif, à la création, à tout ce que tu veux. Mais c'est vraiment à partir d'anecdotes, d'incidents tout bêtes. Tu vois, quand je racontais, souvent il arrivait dans des groupes que je commençais à raconter, ou face à des gens, je commençais à raconter un peu mon expérience vécue du racisme, et à peine au bout de 10 secondes, on m'arrête et on me dit « Attends, est-ce que c'est pas toi qui es parano quand même ?»
J'ai eu un pote avec qui j'étais à la fac ici, qui a grandi à la Villeneuve, qui a arrivé à faire son master totalement, il a fini, un master de chimie, il faut travailler en laboratoire, un secteur qui n'est pas si facile. Je dirais pas c'est les conditions, je dirais pas c'est les tracés, mais quand tu grandis à la Villeneuve, tu as déjà une entité à Grenoble. C'est un truc que j'ai découvert en France, que certains quartiers font de certaines personnes en des cas spécifiques. Donc quand tu mets sur ton CV Villeneuve, on va pas se mentir, la personne n'ira pas voir ton expérience, mais il va peut-être se limiter à se dire « Ah, il vient de la Villeneuve, donc c'est un cas social. » Du coup, oui, il a eu du mal au début, il a eu du boulot, il s'est battu, a fait des entretiens partout dans la France. Je l'ai vu galérer, aller à Paris, enchaîner des entretiens sur entretiens. Et j'ai dit, va au Canada. J'ai grandi au Canada, c'est un système social. Ça fait 5 ans, 6 ans, il est au Canada, il se sent bien. Lui, il trouve qu'il y a beaucoup de racisme en France, par rapport à son expérience, par rapport à son vécu. Moi, je dis, moi, de mon expérience personnelle, je dis, parfois, il faut savoir s'aider pour que la vie t'aide. C'est-à-dire quoi? Sachant que tu viens de Villeneuve, tu as fait des grandes études, tu es arrivé à t'en sortir. Il suffit juste de ne pas le mentionner ou de ne pas le faire pas. Peut-être que ça peut t'aider aussi à trouver un truc beaucoup plus simple que la personne ne... Il ne faut pas laisser la chance aux autres de leur faire croire que voilà, tu viens d'un milieu minoritaire ou un milieu éducatif très très vague ou très très contraignant. Je le fais bien. Donc on accueille la personne par rapport à son expérience et non par rapport à sa tête et non par rapport à son origine.
Mais c'est quand même fou de devoir camoufler, du coup.
Là, je suis d'accord avec toi. C'est de la manipulation. C'est une manière de se dire, j'aimerais pas être distingué par ma couleur, j'aimerais pas être distingué par mon truc, et puis voilà. Mais on sait tous qu'on est enfant d'immigrés. Et notre couleur peut nous porter préjudice, pas moi, par rapport aux histoires qu'on a entendues, par rapport à ce qu'on nous a raconté.
Campus Grenoble, 90.8, pour les amoureux de musique de 7 à 97 ans.
Du coup, la question et la pensée du vivre ensemble est déjà biaisée quand ghettoïse, consciemment ou inconsciemment, parce que le problème aussi, c'est que le vrai problème aussi en France, c'est le déni. C'est que la France se voit comme une grande puissance qui n'est plus. La France se voit comme la France des Lumières. Et il y a un déni qui est très, très clair. Et vraiment, beaucoup de Noirs, de personnes racisées, le disent à chaque fois qu'elles ont essayé d'expliquer à des Blancs que leur attitude pouvait être problématique ou qu'ils pouvaient avoir des situations racistes. C'est que pour la plupart des Français, pour la plupart des Blancs, le racisme, c'est la caricature du vieux mec qui vote FN, qui ouais. déteste les Noirs, les Arabes et tout, et qui a envie de les dégommer, de leur tirer dessus. Et ils n'arrivent pas à se rendre compte. Et donc, quand tu leur dis que ce qu'ils peuvent faire est raciste, comme ils ne se voient pas comme ça, ils ont ce rejet-là. Et ça crée plein de situations parce qu'ils se sentent agressés et insultés quand tu leur fais remarquer que peut-être, ils ont pu être racistes à tel moment. Peut-être que cette attitude a été raciste ou problématique. Et c'est pour ça, je ne sais pas avec qui j'en parlais, c'est pour ça, peut-être, pour mieux faire accepter la pilule, il faudrait trouver un autre mot que raciste, tu vois, pour leur dire, OK, vous n'êtes pas raciste plus, mais vous êtes raciste moins, tu vois. Parce qu'en fait, de toute façon, quand on grandit dans un système qui est fait pour nous favoriser, on n'arrive pas à se rendre compte de certaines choses. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des termes maintenant où on dit, oui, tu es peut-être biaisé, tu es peut-être problématique. Pour essayer de créer le dialogue et amener les gens à se rendre compte qu'il y a des impensés qui sont en fait hérités de systèmes psychiques qui sont des systèmes de domination. En fait.
Parce que quand on me sort que Charlie Chaplin a des années à faire du blackface, il a voulu faire rigoler les gens. Donc, est-ce qu'on doit l'incriminer sous prétexte qu'il a fait, c'est du racisme ? Donc, posons-nous la question, est-ce que c'est logique de repartir là-dessus ? Alors que, quand tu me dis que tu détruis la statue d'un gars qui a vendu des esclaves et on le glorifie en mettant statue, là je suis d'accord avec toi, on n'a pas à glorifier ce genre de personnes.
Mais est-ce que ça ne va pas tout ensemble tout ça ?
Non, je ne suis pas d'accord. De mon point de vue, Charlie Chaplin, il s'amusait. C'est de la rigolade. Il fait rigoler les gens, il fait rigoler quelqu'un. Regarde, quand tu sors de chez toi déjà énervé et tu rencontres quelqu'un qui ne rigole pas, tu ne vas pas rigoler. Et tout de suite, au fait, l'énergie positive, ça vient automatiquement, en fait.
Ouais, bah moi, Jean-Marie Bigard, il ne me fait pas rire. Hein.
Oui, tu vas trop loin. Il y a le mot dans le mot, excuse-moi. Mais bon.
On peut prendre des exemples de pop culture. Tu vois, je prenais l'exemple récemment pour montrer à quel point même dans l'imaginaire, il y a des choses qui sont inconcevables pour les gens. Je prenais récemment l'exemple du Seigneur des Anneaux, le film. J'adore le Seigneur des Anneaux. Je surkiffe ce film et j'ai rien contre le film en soi. Simplement, il faut quand même se dire que Tolkien, c'est quelqu'un qui a imaginé un monde entier, un univers entier avec des créatures complètement différentes, des orques, des elfes, des hobbits, des nains, des guerriers, machin, 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 tout ce que tu veux. Et dans cet univers entier, il n'y a pas un seul noir, pas un seul asiatique, que des blancs. Et c'est-à-dire que à quelqu'un, tu dis, il réimagine l'univers comme tu veux, l'univers, selon lui, il y a plein de races, mais calqué sur une ethnie, sur un folklore, sur tout ce que tu veux. Et je suis OK avec ça. Je suis tout à fait OK avec ça. Je dis, OK, très bien, c'est ça la cohérence, c'est ça ma manière de voir le monde, il n'y a pas de problème. Mais, en fait, quand tu vois ça, et que tu te dis, tiens, moi, si j'imaginais un univers basé donc sur des contes africains entièrement recréés avec plusieurs types de personnages, etc., etc., avec que des Africains, je peux te garantir que beaucoup, beaucoup de gens, ils verraient une résistance et diraient « Mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais du communautarisme? C'est quoi ton délire ?» Genre, ah ouais, c'est vraiment très spécifique. Hein. « Ah, tu fais du social. Il y a des choses qui sont acquises dans la vie. Et quand tu changes, quand tu proposes juste une petite différence, l'ampleur de la résistance, la résistance des gens face à toi, te fait te dire qu'il y a vraiment un problème. Et c'est ça qui te fait devenir radical. Parce que tu te retrouves face à des gens qui te disent que tu es fou et que tu inventes n'importe quoi, alors que c'est eux qui sont dans un déni de leur propre supériorité. Et ils ne veulent pas l'abandonner. Ils ne veulent pas le reconnaître. Ils disent que tout le monde est pareil. Mais la vérité, c'est qu'ils ont peur et qu'ils ne veulent pas abandonner cette supériorité-là.
On n'a pas les mêmes chances. Oui et non, c'est faux. Tout le monde a les mêmes chances. Certaines personnes savent la saisir, c'est tout. Même les Français, nés ici, ont des opportunités, ont des difficultés. Et certains la saisissent mieux que d'autres, c'est tout. Il y a ce truc-là, je pense qu'on ne pourra jamais vérifier. On ne pourra jamais être sûr de ça. C'est-à-dire, quand tu vois deux CV sur la table d'un Français, d'un Black, ou le CV d'un Français et d'un Arabe, le recruteur choisit, soi-disant, 90% ont choisi le CV du blanc. Oui. Mais, commençons à travailler en tant que Black, en tant qu'Arabe, et oublions, franchement, faisons sorte qu'on n'a pas vu ça, quoi. Travaillons pour travailler. J'aime ce que je fais, je bosse, je le fais de telle sorte, peut-être que je le fais deux fois plus que le blanc qui est là.
Mais c'est pas juste.
Mais c'est la vie. Montrez-leur tout simplement que c'est pas ta couleur qui vaut ce que tu fais.
Et même tu finis par t'en vouloir parce que le fait d'avoir été si magnanime les années précédentes a donné la sensation aux autres que ce qui t'arrivait n'était pas si grave.
En fait, j'ai pas envie qu'on me stigmatise à ma couleur. J'ai envie qu'on me reconnaisse pas mes actes, comment te dis, il y a, je sais pas qui l'a écrit. Quand tu veux connaître quelqu'un, ne se limite pas à ce que la personne te dit. Regarde ce qu'il fait, comment il agit au fait. Et je préfère qu'on me voit pas parce que je dis ou pas parce que les gens disent, mais parce que je fais, pas mes actes au fait, pas mes actions.
C'est-à-dire que à la fois quand tu es le seul qui réussit ou quand tu réussis parmi tant d'autres, on te félicite, on dit ah oui c'est bien qu'il y en ait un, mais en même temps. Quand tu veux émettre un discours contraire, en fait, on te blâme d'autant plus fort. Enfin, c'est, tu sais pas où est ta place ni comment réussir. Tu vois, l'école de cinéma où j'ai réussi à rentrer, j'avais des amis qui me disaient « Oui, bon, ça va, en fait, ils ont des quotas, c'est bon, c'est pour ça que t'es rentré, ça va, la ramène pas trop quand même. » Et en même temps, en injonction contradictoire, tu te dis « En fait, quand même, vu le nombre de noirs qui font du cinéma, qui arrivent à rentrer du cinéma, qui arrivent juste à se décloisonner l'esprit et s'autoriser à se dire qu'ils vont devenir réalisateurs, en fait, c'est pas vrai, c'est pas si simple de rentrer que ça. C'est toujours dans ce truc permanent de chercher sa place, mais du coup d'avoir intériorisé beaucoup de choses en fait. Et pour beaucoup de gens, en fait, pour beaucoup de noirs que je connaisse, ils intériorisent beaucoup en se disant que voilà, tu vas pas déballer toutes tes affaires, toutes tes luttes sur la place publique parce que tout le monde lutte, tout le monde a des soucis et ce qui est important, c'est le résultat. Ça sert à rien de chialer, de réclamer tout le temps. Il faut juste travailler deux fois plus que les autres et puis voilà.
Le petit pas positif, ça change la mentalité des gens. Donc, c'est ça, en fait. Donc, il faut prendre la patience. Je m'en fous des stéréotypes, je m'en fous du jugement. Mais je vais te prouver avec le temps que ton jugement est faussé dès le départ. Et que je reste un être humain tout comme toi. Et je peux apporter du positif, mais deux fois mieux. Et tu changeras ta mentalité.
Donc, tu es très patient. Et ta stratégie à toi, c'est d'ignorer les racistes, en fait. Et de leur prouver qu'ils ont tort.
Ben oui. C'est ma stratégie. Moi, je ne sais pas. On ne fonctionne pas tous de la même manière. Il y a certaines manières, comme Black Lives Matter, qui le crient haut et fort. Quand tu vois le cas de George Floyd, qui est très touchant, je n'ai pas besoin d'être noir pour crier. Voilà, c'est peut-être leur manière, mais je pense qu'il y a plusieurs manières de se faire entendre. Tu peux le faire passer par l'humour aussi. Tu peux lui dire, au fait, au lieu de faire, de revendiquer et de dire de ne pas tout faire, regarde, il y a le cas de Karen qui marche bien. J'adore ce cas-là. Karen, c'est l'histoire d'une dame blanche qui s'est énervée contre un black sans raison propre, au fait. Et aujourd'hui, il y a chaque femme ou chaque personne, il y a une dame par exemple qui est allée dans un parc et elle avait du mal à s'asseoir à côté des blacks, elle pleurait, elle appelait les flics et tout pour dire de venir se débarrasser de ça. Et tu vois tout le monde le filmer en disant, ah mais voici notre nouvelle Karen. Une nouvelle Karen. Et il y a plein de femmes aux États-Unis, tu vois, tu utilises les adjectifs, tu verras. À chaque fois, quand il y a une femme qui traite de manière injuste un black, on la traite de Karen. Il y a une, la dernière fois, qui a sorti le flingue carrément sur une dame et tout. Oui, c'est les États-Unis, c'est particulier. Oui. Tu vois, et on prend la photo, on dit, voici la nouvelle Karen.
Ah, d'accord, en fait, c'est un peu comme les hockey boomers, mais avec une c'est femme
ça.
Raciste. Quoi.
Voilà, c'est d'accord. Ça.
George Floyd, c'est vraiment une question, à mon sens, c'est vraiment d'abord une répercussion sociétale, une question de vivre ensemble maintenant, aujourd'hui, en tant que société, et de ce qu'on veut tolérer ou pas en tant que société. En fait, c'est pas nouveau. Beaucoup de gens disent oui, c'est nouveau, il y a une flambée de violence. En fait, quand on refait le décompte, en fait, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement outre-Atlantique. Et même, en fait, ça remonte à très très loin. Ce qu'il y a de nouveau, certains disent que ce qui était nouveau, c'est que ça a été filmé, mais en fait, d'autres abus policiers ont été filmés et personne n'avait réagi. Là, je pense qu'il y a eu un truc où le monde entier était sonné et ne pouvait faire autre chose que réagir à ça. Ça, c'est d'une part. Ensuite, d'autre part, en fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué, le déni. C'est la manière dont y a une division qui s'est créée alors que l'évidence est implacable. Et c'est ça que c'est ça qui m'a vraiment questionné, en fait. C'est-à-dire que c'est étonnant de voir... Enfin, c'est plus qu'étonnant, en fait. Il y a une espèce de comment dirais-je, de ras-le-bol, de lassitude, de fatigue à voir... avoir le déni de certaines personnes, avoir la manière dont tout un système s'évertue encore à nier quelque chose qui est aussi pour moi aussi évident, quoi, et la manière dont on arrive encore à intellectuellement s'arranger par des petites pirouettes pour se dire que non mais c'est juste aux États-Unis, non mais en fait je trouve ça extrêmement choquant, par exemple en France, les personnes qui essayent de minimiser ce qui s'est passé en faisant appel au passé de George Floyd, en disant que, je sais pas, j'ai lu qu'il était acteur porno, qu'il avait consommé de la cocaïne, qu'il avait déjà fait de la prison parce qu'il avait agressé des gens. Et en fait, ça je suis extrêmement choqué j'ai été extrêmement choqué de ça, de me dire qu'on essayait d'utiliser ça pour valider ce qui s'était passé. C'est-à-dire que, en fait, ta vie, ce qu'on essaye de te dire, c'est que quand tu es noir, ta vie ne vaut pas grand-chose, ne vaut pas tant que ça. Et je pense que c'est le message qui est envoyé et que reçoivent beaucoup de gens.
Et est-ce que tu penses vraiment qu'un jour, il y aura plus d'inégalités raciales ?
Est-ce que tu penses qu'un jour, il n'y aura plus d'agression des femmes?
Je pense que ça va diminuer, ouais.
Ah, mais ça ne va plus ne plus exister. Il y en aura toujours.
Mais c'est un peu cynique, du coup.
Non, c'est pas cynique. C'est
triste.
Non.
C'est pessimiste.
Non, plus.
C'est quoi?
Non, plus. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je te l'ai dit, un projet, c'est 90% de réussite. Une pilule, c'est 99% de réussite. Tu as le 1%. Dont les 99%, c'est intéressant. C'est une réussite. C'est pas pessimiste, c'est 1%. Et il y aura toujours des connards qui vont agresser des filles. Ça ne veut pas dire. Ça va réduire le fait d'en parler, le fait de multiplier les actions, le fait de les afficher. Ça va réduire, mais ça ne va pas disparaître. Les 1% sur la pilule a son importance. Et les 1%, c'est bien. Ça va se faire tout doucement. Le combat ne s'arrêtera jamais. Ça va réduire jusqu'à ce qu'on arrive au 1% qui restera. Mais de mon existence jusqu'à ma mort, il n'y aura jamais de 100%. Et je pense que c'est la même chose pour le racisme ou pour toute autre chose. Mmh. Tu ne peux pas dire que ça va disparaître totalement. C'est impossible. Il y aura toujours les 1% qui seront là. Même si ça réduit. Il faut en parler. Il faut continuer à en parler. Mais je dis toujours, il faut continuer à en parler. Il faut toujours faire des actions. Il ne faut pas baisser les bras.
Mais de toute façon, en fait, je pense que le changement est inévitable. Il y a trop de gens qui poussent. Et je pense que ça va craquer et que... La marche de l'histoire est que ce déni-là soit repoussé. Pour moi, c'est évident. C'est la chose la plus évidente qui soit. Après, nous sommes dans une société extrêmement polarisée où parfois, beaucoup de gens se sentent agressés. Mais c'est ça qui est extraordinaire aussi. C'est vraiment un truc que je trouve extraordinaire, que des gens puissent se sentir agressés juste parce que tu veux dire que ta vie compte, juste parce que tu veux mettre en évidence le fait que il y a un système, il y a des schémas institutionnels, il y a des manières de penser bien ancrées dans l'imaginaire commun qui font que de fait tu es en position de défaveur sur plusieurs points, sur plusieurs droits dans ta vie, quoi. Et juste cette négation, en fait, et l'arrogance parfois avec laquelle cette négation arrive, c'est quelque chose qui attise encore plus le débat.
On est une génération qui est intéressante, c'est la génération des vidéos, c'est la génération qui s'exprime beaucoup par l'image. Donc en les affichant, en donnant des noms, le truc de carême ou ok boomer, des trucs comme ça, c'est des trucs qui pointent au fait, c'est des trucs qui sont poignants, qui font sortir... Me too, tu vois, c'est des trucs. On est une génération qui arrive à sortir des choses qui restent, tu vois. C'est des trucs qui va faire que demain, quand tu auras une carène, ils vont l'afficher. Et à force de l'afficher, les autres auront peur d'être affichés. Ils vont se ressaisir petit à petit, et puis voilà, ça va diminuer, mais ça ne pourra pas disparaître. Faut en parler, mais faut pas arrêter de parler. Et c'est là que je mets la pointe qui dit. Le fait d'en parler, et c'est de ça moi j'ai peur, le fait d'en parler, c'est de ne pas aller dans l'extrême parce qu'on est en train de perdre beaucoup de choses. Avant, on riait de tout et vraiment de rien. On se fout de la gueule aujourd'hui de Macron sans s'être arrêté. On n'est peut-être pas totalement dans une démocratie, on est une démocratie qui nous permet de parler d'un président à l'air libre devant tout le monde à la télé sans forcément demain se faire arrêter et d'aller foutu dans un camp de concentration, tu vois. On peut se permettre de ça. Donc, si on peut se permettre du président et parler comme ça, j'aimerais pas qu'on arrête ou on dit aux humoristes, aux humoristes de ne plus se moquer des Noirs, de ne plus utiliser le blackface, des trucs comme ça. On va loin. Je pense qu'on va très loin aujourd'hui dans les manières de faire. Et là, on va tellement aller l'oreille à changer carrément les mots qui sont écrits sur les produits pour enlever tout ce qui est noir, tout ça. Ouais. On va vraiment loin aujourd'hui.
Mais moi, je trouve ça très bien, ce que L'Oréal fait.
Non, je trouve qu'on va un peu à l'extrême, là.
Non, je ne suis pas sûr que la violence soit plus forte. Et j'aurais même... Enfin, je ne sais pas, quand je pense aux émeutes de Watts à Los Angeles en 92, après Rodney King, il me semble que c'était quand même assez violent. Non, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes racisées qui investissent les champs à la fois intellectuels, à la fois... de parole, à la fois de représentation. Donc, en fait, il y a quelque chose de plus omniprésent et quelque chose qui s'est aussi un peu plus radicalisé parce que beaucoup de luttes avant ont été un peu, adoucies, calmées, mises sous le tapis. Donc, à un moment donné, tu as beaucoup de gens maintenant qui parlent, notamment en France, parce qu'ils ont grandi dans une espèce de frustration. Et maintenant, alors avec les réseaux sociaux, mais aussi avec le fait que, avec le fait que les savoirs circulent plus facilement, et aussi le métissage des sociétés, tu vois, tout simplement, il y a une génération de gens qui arrivent à 30, 40, 50 ans maintenant, qui n'ont plus envie de se taire et qui estiment avoir suffisamment donné, quoi. Ouais, ça se polarise. Ouais, c'est peut-être plus dur dans l'affrontement des opinions, mais c'est aussi parce que la situation a été progressivement mise sous le tapis.